BFM Business, tout pour investir. Antoine Larigauderi.
Bienvenue à toutes, bienvenue à tous pour cette nouvelle édition de Tout pour investir TPI sur BFM Business et on est en direct pour une heure à la radio, à la télé, sur le web et évidemment vous pouvez trouver l'intégralité de nos chroniques en podcast et en replay et évidemment celles qui vous intéressent le plus, les chroniques pratico-pratiques, la boîte à outils, le placement à suivre, le coffre-fort, etc. Mais évidemment, dans le déchiffrage aujourd'hui, on va revenir sur vos sujets de préoccupation du moment et spécialement sur l'investissement en action. Devinez quoi ? Dans la tech. Du jour au lendemain, c'est tout l'un, tout l'autre. On ne sait pas où on va, hein, et spécialement sur le secteur des semi-conducteurs, avec la grosse news du jour, évidemment, exploser tous les compteurs. C'était la mission de Samsung. Et la mission est largement remplie. Les bénéfices dépassent toutes les espérances. Et pourtant, le titre a plongé à la bourse de Séoul ce matin. Encore une séance très difficile pour tout le secteur et tout le continent asiatique. On le verra aussi, c'est le cas sur les marchés européens. Où est-ce qu'on en est ? Est-ce qu'il ne faut pas justement voir du côté de vos investissements si vous n'êtes pas exposé à votre corps défendant à cette extrême volatilité ? On va essayer de déchiffrer tout ça avec Christian Fontaine du magazine Le Revenu, Félix Baron du Club des investisseurs indépendants. Un point stratégie aussi important, arbitrage avec Alexandre Baradez d'IG pour essayer de voir plus loin. Et puis, tiens, point sur l'investissement en actions. Baromètre très intéressant en cette fin de première partie d'année. On fera le point avec Arnaud Gian de BlackRock. Petit point aussi sur la fiscalité avec Christian Fontaine qui nous expliquera les mérites comparés du placement sur l'assurance vie ou le compte-titre ordinaire, le bon vieux CTO qu'on a redécouvert cette année. Rendez-vous dans la boîte à outils. Enfin, on terminera comme régulièrement par le marché de l'art avec les spécialistes d'Agut pour répondre à de grandes questions. Comment les maisons d'enchères suivent les tendances et s'inspirent des grandes initiatives institutionnelles en la matière et réciproquement? Comment l'un s'inspire de l'autre? Comment partir à la chasse aux grandes signatures de l'art pour rendre accessibles les œuvres sur le marché? Focus passionnant en fin d'émission, encore une fois, dans le coffre-fort. Évidemment, toutes vos questions, vous nous les posez par mail. Et l'adresse, c'est direct@bfmbusiness.fr. Vous nous envoyez un SMS au 732-16, tapez le mot-clé business suivi de votre message. Et puis sinon, vous pouvez me joindre sur Twitter ou LinkedIn sur mes comptes perso. Le reste de l'actualité du jour, c'est donc le sommet le plus scruté de l'année pour l'Alliance Atlantique. Les membres de l'OTAN se retrouvent pour deux jours à Ankara, en Turquie, avec sur place les dirigeants des 32 pays membres, dont Donald Trump, mais aussi Volodymyr Zelensky. Car menu officiel, il y a le soutien à l'Ukraine, évidemment, ainsi que la mise en œuvre des engagements de dépenses pris l'an dernier. Et avant ce sommet de l'OTAN, Emmanuel Macron est à Damas, en Syrie, pour la première visite d'un chef d'État occidental sur place depuis la chute de Bachar al-Assad. Il est reçu par Ahmed al-Shara, l'ex-djihadiste désormais président par intérim du pays. Et dans une interview à BFM TV, ce dernier affirme une commande potentielle de 8 appareils à Airbus pour la Syrie. On sait aussi qu'il y a eu un attentat dans l'hôtel du côté duquel Emmanuel Macron logeait. Enfin, il n'y a pas eu de blessés ni rien, mais un acte terroriste qui a ponctué cette venue d'Emmanuel Macron en Syrie. Dans l'actualité des entreprises, Toyota annonce ce matin investir 3,6 milliards d'euros au Texas, où le constructeur va en fait transférer depuis le Mexique la production de son pick-up Tacoma, dans un contexte où Washington refuse à ce stade de renouveler son accord de libre-échange avec son voisin. Et puis, les principales plateformes de streaming lancent leur contre-attaque en France contre leurs obligations d'investissement. Netflix, Disney+, et Prime Video viennent de déposer des recours pour excès de pouvoir contre le décret qui les oblige à allouer 20% de leurs investissements dans la création française à l'animation, le documentaire et le spectacle vivant, la fameuse exception culturelle, une réglementation qui prend ici le pas sur la liberté éditoriale au détriment des attentes du public, dénonce la vice-présidence de Netflix France dans le journal Le Monde. Tout de suite, le tableau de bord de vos marchés.
Tout pour investir, le tableau de bord.
Alors, encore une journée particulièrement pénible du côté des valeurs tech et du côté des bourses asiatiques, et particulièrement à la bourse de Séoul, où il y avait le gros morceau du jour et c'était les résultats de Samsung. Bon, globalement, le groupe coréen explose tous les compteurs en matière de bénéfices, de rentabilité, de perspectives, et pourtant, le titre a chuté très lourdement jusqu'à 10% de baisse. Encore une fois, séance compliquée à Séoul. On a dû activer les coupes-circuits pour ralentir les échanges à la baisse et éviter un crack. Bref, il y a toujours ces doutes sur à quoi vont servir tous ces semi-conducteurs. Est-ce que le marché ne va pas finir par se retrouver trop approvisionné face à des perspectives qui sont peut-être un peu moins porteuses que prévu? Alors, en tout cas, le marché européen lui résiste bien et on voit un CAC 40 qui gagne 0,48% à 8520 points, qui surperforme même l'Eurostoxx 50 qui lui parallèlement perd 0,3%, même score pour le DAX à Francfort. Encore une fois, qu'est-ce qui nous sauve ? Ben, c'est le secteur du luxe qui, par petits à coups, là, signe un petit réveil. Kering, plus 2,46, on est à 255,85 €. On a L'Oréal, plus 2,61, 387,85 €. Et les plus fortes hausses de l'indice, Pernod Ricard, plus 3,9, 64,88. Carrefour, plus 3,77, à 16,52. À noter sur le SBF 120 qu'on a Rémy Cointreau qui suit la tendance de Pernod Ricard et qui gagne 4% à 44,30 €. En revanche, à la baisse, les semi-conducteurs, tout l'un, tout l'autre. Retour de balancier immédiat après quelques belles séances. STMicro qui perd 5,2% à 60,04 €. Baisse lourde pour Soitec qui perd 12,5% à 103,55 €. Et puis, d'une manière ou d'une autre, et on va en parler justement avec nos déchiffreurs, est-ce qu'on n'est pas exposé à notre corps défendant à cette tendance par le biais de certaines valeurs? Regardez Mersen qui perd 5,4% à 38,66 €. Ben oui, Mersen, c'est un spécialiste c'est l'ancien Carbone Lorraine, un spécialiste du traitement des minerais rares. Là, on est en pleine problématique des terres rares, mais à destination de l'industrie, des semi-conducteurs, de l'électricité, etc. Et le titre est exposé à ces retournements de tendance violents. Et même chose d'ailleurs pour Schneider Electric, qui perd 1,9% à 273,15 €. À noter aussi que ça s'agit du côté du secteur de la défense, notamment Safran, qui perd 0,8% à 354,40 €, ou encore Airbus, moins 0,3, 208,75 €. L'euro-dollar, 1,1429. Un petit coup d'œil sur le Bitcoin, qui se renforce un petit peu après avoir de nouveau fait des incursions du côté des 60 000 $, on monte à 63 000. Et puis le pétrole qui se tend légèrement, 72,91 $ pour le Brent de mer du Nord. Et on est du côté des 69 pour le brut léger américain. Tout de suite, on déchiffre l'actu du jour.
Tout pour investir, le déchiffrage.
Les déchiffreurs sont là. Félix Baron du Club des investisseurs indépendants. Bonjour,
bonjour
Félix.
Antoine.
Et bonjour à Christian Fontaine du magazine Le Revenu.
Bonjour Antoine.
La question qu'on se posait, est-ce qu'on n'est pas exposé d'une manière ou d'une autre ? Alors, par les pondérations dans les indices, ça c'est un phénomène automatique, la concentration, on a vu ça, etc. Est-ce qu'on n'est pas exposé d'une manière ou d'une autre, même quand on prend les valeurs les plus pépères, les plus pères de famille du CAC 40.
Ah, je vois où vous voulez en venir.
Mais oui, est-ce qu'on n'est pas exposé d'une manière ou d'une autre à cette volatilité totalement dingue sur les semi-conducteurs ? Bref, est-ce qu'Air Liquide et est-ce qu'Hynix, c'est un petit peu la même chose ?
Alors, c'est quand même pas la même chose. Et si vous voulez bien, je vais quand même regarder la bouteille à moitié pleine et pas à moitié vide, mais
oui,
rebondir bien sûr sur ce que vous venez de dire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi Air Liquide est sous les feux de la rampe ? D'abord, c'est pour une bonne nouvelle, puisque un record historique a été battu la semaine dernière. Le titre a progressé de quelques 5%. Alors, pourquoi cette petite poussée de fièvre ? Parce que Air Liquide a annoncé un investissement aux États-Unis de 170 millions de dollars pour produire, construire, exploiter et détenir deux unités de production de gaz industriel pour l'approvisionnement, justement, et c'est là où on en vient, de Ask Enix, leurs unités aux États-Unis. Alors, sur le fond, c'est les marchés a bien réagi. Alors, voyons, la bouteille à moitié pleine, c'est quoi ? C'est que, en fait, historiquement, le narratif ces dernières années autour de Air Liquide était beaucoup sur l'hydrogène. Et puis, les marchés ont été un peu déçus, un certain nombre de projets ont été reportés. Et c'est vrai que là, le zoom est mis sur la division électronique qui, pour l'instant, ne pèse que 10% du chiffre d'affaires, mais qui progresse fortement. Et une division électronique tirée notamment par les investissements dans l'IA. Et là où je vous rejoins, c'est que effectivement, Air Liquide est une valeur extraordinaire. Hein. De mémoire, il y a autour de 900 000 actionnaires individuels en France sur le titre Air Liquide. Hein. C'est plus, il y a quelques années, on était à 400 000. Donc, c'est une progression absolument abyssinale qui se justifie, puisque cette valeur rapporte sur le long terme un taux de rendement interne, hein, en fonction de la date à laquelle vous investissez, autour de 12-13%. Donc, c'est absolument colossal. Mais oui, vous avez raison, ce narratif autour de l'IA atteint maintenant des belles valeurs défensives type Air Liquide. Donc on peut s'interroger, si un jour il y a un coup de grisou sur les marchés, est-ce que ça va aller jusqu'à ce type de valeur ? On peut s'interroger.
Je vous donne un autre exemple. Il y a quand même un truc, quand on relevait les compteurs du premier semestre, il y a les trois plus fortes hausses du SBF 120, vous avez dû voir ça comme moi. STMicro, pas de surprise. Soitec, pas de surprise. Mersen, Carbone Lorraine. Mais alors, oui, mais ils sont exposés aussi à l'IA et enfin, je l'ai dit pendant le point bourse là tout à l'heure, mais oui, on est en plein de problématiques, alors en plus des terres rares et des matériaux nécessaires à la construction des semi-conducteurs, des circuits électriques, etc. Et encore une fois, on en arrive à cette... Alors, est-ce qu'on n'est pas exposé d'une manière ou d'une autre ?
Alors, bien sûr, mais ça date pas d'hier, ça date même d'il y a plus d'un an. En fait, c'est vrai, vous n'avez plus un communiqué de presse où, je dirais, la direction de l'entreprise cotée n'essaye pas de tirer et de placer le mot magique en espérant bien évidemment qu'il y aura un impact positif sur les cours. Donc, oui, c'est vrai, il faut se méfier. Donc, pour rebondir sur ce qu'on disait la semaine dernière, je pense qu'effectivement, dans cette période d'été, après un premier semestre, vous l'avez dit quand même, un bon premier semestre,
mais
la
oui.
plupart
bah
oui. des auditeurs et des auditrices qui nous écoutent, hein, investisseurs en bourse, les portefeuilles aujourd'hui, sur 6 mois, c'est des progressions autour de 10-15%. Donc, c'est des progressions tout à fait spectaculaires. Donc, je pense que pour cette période d'été, se repositionner sur des belles valeurs comme Air Liquide, qui sont plus défensifs que des valeurs de semi-conducteurs purs et durs, je pense que ça peut tout à fait faire sens, retourner un tout petit peu vers les fondamentaux, prendre du recul. Aujourd'hui, c'est le résultat du bac, et ouais. notamment épreuve en mathématiques. Je pense que cet été, il faut aussi le mettre à profit pour, pourquoi pas, quelques lectures et se remémoriser quelques formules mathématiques, quelques définitions absolument indispensables pour bien gérer son portefeuille à long terme. On le répétera jamais assez, mais calculer un taux de rendement, un TRI, une volatilité, c'est indispensable pour bien gérer son argent.
Oui,
donc cette période d'été peut aussi être mise à recul pour, se remettre un tout petit peu à quelques mathématiques financières de base indispensables pour bien gérer votre portefeuille. Et puis quelques lectures. Je vous ai sorti un livre, « Brève histoire de l'euphorie financière » de John Kenneth Galbraith. C'est vraiment un livre phare sur la spéculation financière et la spéculation boursière. Donc, ce n'est pas forcément inutile de le ressortir. Et alors, pour revenir quand même sur votre sujet, cocorico quand même avec Air Liquide. Il ne faut pas hésiter, on ne parle, sur votre antenne, mais au revenu aussi, on ne parle que de valeurs américaines. Voilà une valeur française au sommet. On ne parle que de semi-conducteurs et d'IA. Alors, on a beau dire ce qu'on veut, Air Liquide, c'est quand même des gaz industriels. Donc, c'est quand même une petite part du chiffre d'affaires liée à l'IA.
Mais
donc,
indispensable aussi, comme ASML est indispensable aussi.
Bien sûr, aussi indispensable. Donc, on est là, je pense que c'est le moment de se repositionner sur des belles valeurs de défense qui peuvent être européennes. D'ailleurs, ça vous a pas échappé, mais Kepler Chevreux a relevé son objectif de cours à 205 €. Bank of America Securities aussi passé à l'achat parce qu'ils apprécient cette montée en puissance dans l'industrie des semi-conducteurs avec un objectif à 200 €. Donc, il faut pas hésiter à y aller, voire à se renforcer, mais toujours, bien sûr, hein, surtout avec les cours actuels. On met en place un investissement programmé, un DCA, pour éviter de se renforcer au plus haut. Et il faut mieux se renforcer sur plusieurs mois, voire sur 12 mois, même sur ce type de très belles valeurs.
D'autant qu'on n'a pas parlé d'un des autres grands métiers d'Air Liquide, qui est de produire du coupon. Et c'est aussi pour ça qu'on l'achète.
C'est de produire du coupon et je dirais plus encore que ça et encore plus d'actualité des actions gratuites. Parce que vous savez que historiquement, en fait, tous les 2 ans, Air Liquide distribue une action pour 10 détenus depuis au minimum 2 années civiles pleines avec un bonus pour les actionnaires qui sont nominatifs purs ou nominatifs administrés, puisque eux, ils ont le droit à 1% de plus de dividendes, quand le dividende est distribué cette année, c'était vers la fin du mois de mai de mémoire, ou 1% de plus d'actions gratuites. Donc ça aussi, ça permet de diminuer son prix de revient. Ça, bien sûr, ça fidélise les actionnaires. Hein. N'oublions pas qu'Air Liquide, de mémoire, c'est 30% du capital détenu par des actionnaires individuels avec une vraie politique d'actionnariat individuel. Mais voilà, c'était l'occasion, cette progression de la semaine dernière de plus 5%. Je pense que le titre progresse encore aujourd'hui. Record historique pour cette belle valeur franco-française industrielle qui peut, belle valeur de défense, hein, qui peut tout à fait occuper une place significative dans votre portefeuille.
Ouais, 579 €, on est en 0,8% encore. Plus 25% en 6 mois, enfin c'est ouf. Félix Baron.
Et surtout, c'est une valeur qui baisse très très peu. Enfin, en cas de correction sur les marchés, hein, je regardais depuis 33 ans, c'est une valeur qui a baissé 5 ou 6 années seulement sur 33 ans, donc c'est une performance remarquable.
Félix Baron s'organise du coup ben, une rotation. Alors, on l'attend depuis des mois, des années, mais c'est vrai que du côté des États-Unis, on atteint des niveaux techniques particuliers, du côté des grands indices. Alors, on voit qu'en plus, SpaceX va rapidement intégrer le Nasdaq 100, ça va encore provoquer des déséquilibres. Il va y avoir l'ADR, SKNX, le fameux spécialiste des mémoires du côté du Nasdaq. Du coup, bah, oui, il va peut-être falloir penser à abattre les voiles et en redresser d'autres là, sur cette deuxième partie d'année. Ouais.
Sur un terrain dont on vient de parler avec Christian, qui est celui du coupon et du dividende. Ouais. Et Christian parlait de formule mathématique. Retenez-en une. V, valeur de l'action, est égale à D, dividende, divisé par K moins G. Où K, c'est le taux de rendement exigé par l'actionnaire, et G, le taux de croissance du dividende. Ouais. Ça vous donne théoriquement la valeur d'une action. Donc, n'oubliez jamais que la valeur théorique d'une action, elle, c'est l'actualisation des flux du dividende. Elle ne dépend que de ce qu'elle vous rapporte. Donc, avoir les dividendes en tête, avoir l'idée d'un flux de cash permanent qui rentre dans votre portefeuille va devenir de plus en plus important dans les 6 prochains mois. D'abord chez les institutionnels, chez les grands fonds, les fonds de pension, et ensuite vers les particuliers. Et c'est pour ça qu'il va falloir amorcer peut-être une rotation dans les portefeuilles où, bah, c'est sûr que 80% du temps, la croissance depuis le début de l'année a été tirée par le secteur des semi-conducteurs et de la mémoire, mais que ces boîtes-là qui font énormément de croissance ne distribuent pas de dividendes, et que il va falloir peut-être commencer à regarder les Mag 7. D'ailleurs, sur cette histoire de l'industrie des semi-conducteurs, il y a quand même un point très intéressant qu'on n'avait pas observé depuis toujours, je crois. On est proche des 8000 points sur le S&P 500 et qu'on se le dise, c'est vraiment grâce à AMD, Nvidia, TSMC, Broadcom...
Et compagnie.
Micron et compagnie. Ils ont clairement pris le relais des Mag 7, donc les fameuses Alphabet, Microsoft, Apple, qu'on ne présente plus. Avec un paradoxe quand même, c'est que le marché, depuis 2022, était habitué à être tiré par les 7 magnifiques. Et il se disait à l'inverse, si les 7 magnifiques flanchent, le marché va s'effondrer. Ça n'a pas eu lieu. Au contraire, on est à 1% du record historique absolu. Donc, il y a un signe qui est très important, c'est que sur le marché de la tech, il y a une décorrélation entre le super cycle semi-conducteur et mémoire, et puis les gros mammouths, on va dire, de l'infrastructure numérique et aussi du software. Mais cette décorrélation, c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est signe de diversification dans le secteur, de solidité. Oui. Donc, sur le terrain, aujourd'hui, pour reprendre une métaphore football, c'est actuel. Vous avez les chips et la HBM, la mémoire à haute fréquence. Sur le banc, vous avez les 7 magnifiques, mais qui sont en train de préparer leur retour avec un thème qui est très important d'un point de vue technique. Je vais essayer d'être clair. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le tabular data ou les données tabulaires. Le nouvel enjeu.
Qu'est-ce que des... c'est Non, parce que là, en plus, on est sous le flot de « Ouais, investissez dans les cryptos sur la valeur du token d'IA. » Enfin,
j'ai passé mon week-end à en discuter avec un ingénieur en maths qui a fait NormalSup, qui a essayé de m'expliquer.
Oui.
Moi, j'ai fait semblant de comprendre. Et maintenant, je vais faire semblant de m'expliquer. Les grands modèles de langage, donc Gemini, ChatGPT, etc., sont donc la propriété des 7 magnifiques. Le nouvel enjeu de ces éditeurs de modèles de langage, c'est pas tellement d'inventer des modèles d'IA générative, c'est d'aller exploiter ce qu'on appelle les données tabulaires, c'est-à-dire des bases de données structurées en ligne et en colonne, pour faire simple, des fichiers Excel.
Des tableaux Excel,
ou des fichiers Google Sheets, des tableurs, quoi. Sauf qu'aujourd'hui, les LLM, ils sont excellents pour faire du code, ou pour rédiger, faire de la rédaction, mais ils sont très mauvais pour exploiter les bases de données SQL. Pourquoi ? Parce qu'il y a du texte.
C'est quand même la base du truc, c'est.
Oui, mais ça mélange du texte catégorisé et des chiffres qui sont pas forcément, qui sont des variables continues. Et ça, sans ordre naturel. C'est très différent des phrases. En fait, le mathématiquement, ça fonctionne comme une suite de probabilités, un LLM qui calcule la proba que le prochain mot, ça va être ça. C'est pas du tout comme ça dans un tableur. Et puis, imaginez qu'il y ait une valeur manquante. Ça arrive souvent dans les fichiers Excel.
Ça
fait tout planter. Donc, Microsoft et Google, toujours des 7 magnifiques, qui ont les plus grosses compétences et les plus grosses bases de données en matière de fichiers Excel et de Google Sheets, commencent à faire ce qu'on appelle du TFM, c'est-à-dire du Tabular Foundation Model. Donc, l'IA ne lit plus les données tabulaires. Elle convertit des tableaux complexes en une espèce de données que l'IA peut comprendre. Globalement, un cas d'espèce, si vous avez je sais pas, 50 000 lignes pour vos produits ou vos clients dans un tableau Excel, ça peut être analysé en 3 secondes pour savoir quel est le produit le plus rentable, le moins rentable et pourquoi. Amazon, par exemple, elle est en train de construire des réseaux de neurones appliqués au tableau. Donc, LLM appliqué au tableur pour prédire, par exemple, les ruptures de stock au niveau mondial. Meta est en train d'utiliser cette techno des data tabulaires pour croiser toutes les données qu'elle a sur ses clients et pour personnaliser la pub sans dépendre des cookies tiers. Nvidia, c'est encore plus loin. Eux, ils sont en train de créer justement des data tabulaires synthétiques avec des données qui n'existent pas, mais qui reproduisent des tableaux qui existent déjà pour éviter de violer les RGPD et en fait copier le comportement d'utilisateurs en banque, en santé, etc. Donc, ça va optimiser la supply chain, ça va optimiser les objets connectés, ça va surtout améliorer le ROI financier des boîtes qui vont pouvoir leur confier
et ça,
leurs années,
tiennent,
leurs archives de fichiers.
Mais
de
ça demande Excel. Une nouvelle manière de penser. Parce que
c'est ça qui est très intéressant. On faisait de l'intelligence artificielle en essayant de faire un cerveau qui réfléchissait comme nous.
Ouais.
Nous, on n'est pas capable d'analyser 50 000 colonnes et lignes en 3 secondes. Et là, on dépasse... c'est plus de l'intelligence artificielle, c'est une sorte d'intelligence, mais qui n'est pas la nôtre et qui est totalement artificielle. Donc, ça peut être un nouveau catalyseur de l'IA, mais là, version plus software que hardware.
Ce qui est absolument fabuleux, c'est que premièrement, vous êtes en train de nous expliquer qu'on a voulu mettre la charrue avant les bœufs, globalement, que le travail de base sur lequel on attendait l'IA, pour l'instant, il n'est pas fait, il est plus compliqué que prévu. Et deuxièmement, que ceux qui auront la parole, justement, ceux qui ont les bases de données propriétaires, les fameux Salesforce qu'on regarde en disant « oh, pauvre disrupté, machin », les SAP, etc. et tout, c'est eux qui ont l'expérience, c'est eux qui ont les tableaux.
Pour jouer cette tendance, Palantir, Snowflake, Cloudflare, un peu de cybersécurité évidemment aussi,
BlackBerry,
Salesforce, ServiceNow, tout ça. Faut pas oublier que après le SaaS apocalypse qui a été à mon avis personnel assez exagéré, il y a quand même des ingénieurs derrière pour coder.
C'est ça, c'est IA.
Et que je pense que le deuxième catalyseur ou le troisième ou le quatrième de l'IA, il va être du côté du software maintenant.
Bon, là, je suis soufflé.
On en reparle dans 6 mois.
Ah, mais oui, avec grand plaisir. Christian Fontaine, ça vous évoque quoi ?
Ça m'évoque qu'effectivement, beaucoup de gens s'inquiétaient du niveau de valorisation des 7 magnifiques. Et effectivement, d'accord avec Félix, au premier semestre, il y a eu une relève par tout ce qui est semi-conducteurs. Donc ça, c'est plutôt excessivement positif. Il y aura certainement d'autres révolutions tech après. Je vous avoue qu'à titre personnel, je suis totalement incapable de les anticiper. Donc moi, j'aurais tendance à dire cet adage boursier que moi, je préfère acheter la motte de paille plutôt qu'essayer de trouver une épingle dans une botte de foin. Et donc, jouer la tech américaine via le Standard & Poor's 500, voir si vous êtes un tout petit peu plus... si vous acceptez une dose de risque supplémentaire via un indice Nasdaq 100, voire Nasdaq composite, ça me semble être une excellente stratégie. Mais bien sûr, on reste investi sur la tech.
On vous retrouve là dans quelques minutes pour parler justement des mérites comparés de l'assurance vie et du bon vieux CTO. Titre ordinaire, on va voir ça avec vous dans quelques minutes.
De la fiscalité.
Voilà, dans la boîte à outils. Tout de suite, les arbitrages. Merci messieurs d'avoir été là.
Tout pour investir. Arbitrage.
Je dois vous dire que Alexandre Baradez-Digé, bonjour.
Bonjour Antoine.
Je ne sais pas si vous avez assisté à la démonstration de Félix là à l'instant sur...
Je l'ai regardé en replay, je ne l'ai pas vu.
Waouh. Là, il vient de nous expliquer qu'il y a une deuxième révolution dans la révolution de l'IA qui se prépare, parce que jusqu'à présent, l'IA était un fichu de lire correctement des milliers de tableaux Excel et d'en faire la synthèse, alors qu'on attendait ça en premier d'elle.
Oui.
Et que là, la révolution, elle pourrait redonner vie à des SAP, à des Salesforce, parce que c'est eux qui sont propriétaires des tableurs Excel.
On va déjà en parler aujourd'hui, d'ailleurs, du retard des logiciels, je pense.
Voilà. Qu'il y a quelque chose
à là-dessus. Mais...
Ouais, il y a quelques mois, il fallait avoir des cartes GeForce RTX dans un placard et attendre qu'elles grimpent en valeur, parce que tout le monde en voulait. Maintenant, c'est des tableurs Excel qu'on va vouloir.
Ouais.
Dingue, à écouter en replay, en podcast. Alex, vous n'êtes pas venu pour ça.
Oh, si, en partie.
Ah ben si, oui, c'est vrai, il faut anticiper. Et là, avec Félix, on attaquait un sujet qui était intéressant, qui était celui de cette rotation sectorielle qui va peut-être s'opérer, parce que Il va y avoir des arbitrages autour de l'IA. Il y a une partie des investisseurs qui, globalement, vont en avoir ras-le-bol et vont vouloir regarder ailleurs et s'intéresser un petit peu à autre chose parce qu'ils ont l'impression d'avoir été pris dans un biais comportemental depuis le début de l'année.
Oui.
Et est-ce que c'est ça qui est peut-être en train de se dessiner sur les marchés pour les mois à venir ?
Ça y ressemble un petit peu parce qu'on a une belle illustration encore cette nuit avec des mouvements, et ça commence toujours, en ce moment, il faudrait écouter de la Corée, je pense. Si on va avoir un sentiment
totalement.
Par rapport à la tech en Europe et aux États-Unis.
Ils ont encore sorti le sidecar, c'est
voilà,
bon.
C'est du côté de la Corée que ça se passe. On rappelle pourquoi la Corée, hein, c'est pas juste une lubie. Parce que c'est l'indice sud-coréen, il a été multiplié par 4 en l'espace de 15 mois, donc absolument énorme. Là-dedans, vous avez deux valeurs, hein, Skynix et Samsung Electronics, qui représentent la moitié de l'indice. C'est des valeurs donc, qui ont tiré à la hausse cet indice de manière phénoménale. Et récemment, vous avez la Corée du Sud, les autorités qui commencent à mettre en garde sur les produits qui génèrent un effet de concentration supplémentaire. Typiquement, certains ETF à effet de levier, mais qui répliquent des actions uniques. En gros, vous pouvez acheter sur certains marchés des ETF qui vont vous faire un Samsung Electronics x5 en termes de performance, donc à la hausse comme à la baisse. Et ce genre d'éléments-là, on sait que dans l'histoire, c'est souvent comme ça que les excès arrivent. C'est-à-dire que vous avez un thème qui est porteur, qui marche pendant pas mal de temps, et puis vous avez des produits dérivés qui sortent, qui sont émis en quantité, qui accroissent le levier, vous avez des effets de marge aussi qui sont proposés par les intermédiaires financiers, et tout ceci amène les actifs sur des niveaux de valorisation qui sont intenables. Donc moi je pense que c'est ça, ce à quoi on a commencé à assister, c'est que ça commence à se dégager progressivement. Alors c'est des prises de gains, attention, hein, c'est pas des retournements complets de tendance,
voilà.
Des prises de gains, et on voit qu'il y a des réallocations effectivement à la fois sectorielles, et géographique aussi. Par exemple, on voit que l'Europe, ça c'est un de nos paris, c'est en train d'être plutôt gagnant depuis 15 jours, l'Europe est bénéficiaire de ça. On avait des valorisations en Europe qui n'étaient pas excessives depuis pas mal de temps, donc ce qui est en partie allégé, parfois de manière obligatoire, quand vous avez des fonds d'investissement, des fonds de retraite ou autres qui ont des mandats à respecter en termes d'allocation, d'action, type de secteur ou autre, eh bien, il y a des ventes un peu forcées en fin de mois, en fin de trimestre, et ces ventes sont réallouées sur les zones qui étaient un peu sous-performantes. Typiquement, l'Europe, on le voit, ça met des indices, plein d'indices sur des nouveaux records, le MIB en Italie, l'IBEX en Espagne, le
CAC 40, on n'est pas loin.
Ouais. Ouais, même le CAC dividende inclus, il doit y être aussi sur les records.
Oui.
Et le voisin allemand, surtout le DAX qui mijotait sous ses records historiques depuis pas mal de temps, a enfin battu un record. Donc on voit que ça se passe là-dessus. Et on voit que ça revient aussi un tout petit peu sur la Chine. Regardez des indices comme le Hang Seng, par exemple.
Alors ça, vous regardiez de près, hein, Chine.
Oui, je regarde, mais c'est typiquement ce qu'on attendait. C'est-à-dire, effectivement, ce un peu de dégonflement de la surchauffe sectorielle, thématique, semi-conducteur, pour de la réallocation sur l'Europe et un petit peu sur l'Asie. Pas toute l'Asie, mais la partie Hang Seng, surtout, je trouve assez décotée, que ce soit Hang Seng Tech ou Hang Seng Global.
Et ça, c'est plutôt pas mal, parce que ça montre que le marché est pas là pour prendre bêtement des profits et mettre du cash de côté. Il est là pour réinvestir tout de suite.
Oui, il est là pour investir.
Ça, c'est encourageant.
Alors, sur les thèmes, pour donner quelques idées quand même aux gens qui écoutent, je pense clairement que les thèmes, vous en avez parlé tout à l'heure, la partie logicielle a tellement baissé que tactiquement, même si on ne croit pas un rebond massif pendant 2 ans, mais ça a tellement baissé que ça vaut le coup. Moi, secteur auto, toujours un peu là-dessus, c'est un secteur qui a beaucoup, beaucoup baissé. Tout ce qui est industrie, défense notamment, qui a pas mal aussi corrigé la défense, je pense qu'il faut toujours être dessus. Tout le secteur industriel, assez globalement. Là où par contre je m'interroge quand même depuis maintenant 4-5 jours, et là je pense à un sujet qu'il faut regarder. Vous avez les taux qui repartent un peu partout à la hausse,
un petit peu
en Europe notamment. Et c'est pourquoi je trouve ça interpellant, parce que jusqu'à présent on comprenait pourquoi les taux partent à la hausse. Quand il y a la guerre en Iran, les taux partent à la hausse parce que anticipation d'inflation, pétrole, etc.
Ouais,
c'est logique. On a eu, quand le pétrole est pas mal retombé au départ, les taux qui ont suivi. Et puis là, depuis 5 jours, c'est plus corrélé, c'est-à-dire que le pétrole reste bas, grosso modo les cours du pétrole en Europe aux États-Unis sont revenus pile sur les niveaux d'avant-guerre en Iran, donc tout a été effacé du pétrole.
Mais
pourtant, vous avez des taux aux États-Unis et en Europe qui repartent. Et pour moi, ça soulève une question. Est-ce que c'est par rapport à la Fed? En gros, on s'inquiète qu'il puisse y avoir un mouvement sur les taux au niveau de la Fed. Est-ce qu'on s'inquiète que la BCE puisse aussi mettre une deuxième hausse à la rentrée? Peut-être. Il y a le thème du Japon aussi. Regardez, les taux au Japon continuent de se tendre. Ça, c'est un vrai gros sujet. On est à 2,85 ce matin sur le 10 ans japonais. C'est un plus haut depuis 1996 ou 17.
Avec des records de faiblesse du yen.
Voilà. Et je pense que là, depuis 5 jours, il y a un thème sur l'obligataire. Il faut quand même surveiller, parce que les actions tiennent pour l'instant. Mais si l'obligataire commence vraiment pour mettre de la réallocation, on pourrait voir ça. On va un peu la tech et on va sur l'oblique, donc un peu de rotation. Sauf que là, c'est pas trop ce qu'on est en train de voir. C'est-à-dire que les valeurs obligataires baissent toujours, les rendements se tendent encore. Et là, je pense, c'est un sujet un peu banque centrale quand même, Japon aussi. Et peut-être peut être un sujet un peu souverain aussi. Coût de la dette, finalement, pour les États, des États assez endettés.
Tout à fait, oui.
Je ne dis pas qu'il faut s'en méfier beaucoup, mais le spread, par exemple, OAT Bund, qui est quand même un marqueur de ça, il remonte à, aux alentours de 80 points de base, et alors que c'était bien étendu auparavant. Donc, il y a un petit sujet souverain là qu'il faut quand même un peu surveiller dans les jours qui viennent.
Merci beaucoup, Alexandre Baradez, d'IG, le CAC 40 plus 0,43%, 8516 points. Puis, effectivement, quelques tensions sur l'obligataire, les 10 ans. Et 10 ans allemands qui se rapprochent à nouveau des 3%, à 2,97 et 3,64 pour le 10 ans français. Restez avec nous, on va parler fiscalité et placement en action. Ça va être le match entre le compte titre ordinaire et l'assurance vie. À tout de suite.
Tout pour investir, la boîte à outils.
Christian Fontaine du magazine Le Revenu, bonjour.
Rebonjour Antoine.
On ouvre la boîte à outils parce qu'on a, quand même deux choses à regarder avec l'instrument préféré des Français, l'assurance vie, bien entendu. Et le compte titre ordinaire, on en a reparlé il y a quelques semaines ensemble, qui retrouve des attraits parce que, mine de rien, c'est quand même un instrument simple et efficace pour investir sur les marchés financiers. Le truc, c'est que, vous vous souvenez, c'était les concours dans la presse où il fallait répondre à des questions de huissier de justice, maître jaunâtre qui vérifiait les trucs. Il y a la question subsidiaire pour départager tout le monde. Et nous, notre question subsidiaire, c'est quoi ? C'est la fiscalité. Et alors, assurance vie, compte titre ordinaire, est-ce qu'il y a véritablement un match entre ces deux supports
quand Bien sûr qu'il y a un match. Mais d'abord, pourquoi se poser la question à la fin du premier semestre, un premier semestre plutôt bon en bourse, si c'est pour laisser 30, 40, voire plus de pourcentage de vos gains à l'administration fiscale, c'est dommage.
Oui.
Donc autant, et vous pouvez très très bien optimiser votre fiscalité en toute légalité. Donc comme on est en France, effectivement, il convient de prendre un tout petit peu de hauteur. L'assurance vie, vous connaissez, c'est l'enveloppe fiscale préférée des Français, mais historiquement, c'est vrai que les investisseurs en bourse aiment beaucoup aussi le compte titre ordinaire, et donc la question qui se pose un peu, quelle enveloppe fiscale ? Alors, au-delà des taux d'imposition, en fait, c'est deux logiques totalement différentes. La première logique, l'assurance vie, c'est ce qu'on appelle une enveloppe de capitalisation, c'est-à-dire en fait, vous pouvez très très bien multiplier les opérations d'achat et de vendus, et de vente et sans passer par la case impôt, voire sans passer par la case prélèvements sociaux. Vous ne passez par la case impôt que lorsque vous décidez de retirer votre argent pour en profiter, vous faire plaisir, un beau voyage, payer, voire un surcroît d'impôt ou un bien d'équipement quelconque. Avec le compte titre ordinaire, la logique est totalement différente. Vous passez par la case impôt à chaque fois que vous encaissez un euro de gain, que ce soit de dividendes ou de plus-value. Et donc, alors, quelle enveloppe fiscale privilégiée ? En fait, j'aurais tendance à dire que si vous recherchez un placement sans risque, l'assurance vie demeure totalement imbattable, puisque au sein de cette enveloppe fiscale assurance vie, vous allez investir dans le fameux fonds en euros, qui sont à 80%, ce sont essentiellement des obligations, et pour lequel vous allez profiter d'une garantie sur le capital. Donc, si vous ne voulez prendre aucun risque, assurance vie en euros. Maintenant, si vous aimez spiler, multiplier les allers-retours, notamment sur vos ETF préférés ou des fonds d'investissement gérés de façon active. L'assurance vie, c'est bien aussi, parce que vous multipliez les opérations tout en étant dans cette enveloppe de capitalisation, et donc vous allez profiter de la fameuse mécanique des intérêts composés et l'effet boule de neige sans passer par la case impôt. Dit autrement, les impôts que vous devez en sous-jacent, en fait, l'argent des impôts reste investi et fait des petits qui tombent dans votre besace jusqu'au jour où vous déciderez de récupérer votre argent. Alors vous allez me dire, le compte titre ordinaire, c'est pour qui ? C'est pour, d'abord, les amoureux de la liberté. Puisque lorsque vous investissez dans un contrat d'assurance vie, vous ne pouvez investir que dans les fonds qui sont référencés par le dit contrat. Ça, c'est la première chose. Alors que le compte titre ordinaire, l'assurance vie, c'est un produit franco-français. Le compte titre ordinaire, il n'en existe absolument dans le monde entier, dans tous les pays. C'est l'outil de base pour investir en bourse, faire ses courses en bourse. Donc là, vous pouvez investir dans toutes les obligations, dans tous les produits dérivés, dans toutes les actions, dans tous les ETF, qui soient cotés à Paris, qui soient cotés à l'étranger, etc. Donc, c'est pour le CTO, c'est pour les amoureux de la liberté. Pour ceux aussi qui aiment bien la gestion passive. Hein, vous savez, le fameux lazy investing qui me tient à cœur, parce que
ce sont des
investisseurs qui vont se positionner sur une belle valeur, sur un bel ETF, et puis ils vont le conserver pendant des années, notamment des ETF de capitalisation qui ne distribuent pas des intérêts et donc ils ne vont pas être pénalisés, ils ne vont pas toucher de revenus et donc ils ne paieront pas par la case impôt et la capitalisation des intérêts, ils vont profiter aussi. Il y a un autre cas de figure aussi, et tout à l'heure on parlait d'Air Liquide, et c'est tout à fait vrai pour Air Liquide, c'est ceux qui investissent en bourse et qui destinent leurs titres à leurs enfants, voire à leurs petits-enfants. Et c'est vrai que en cas de décès du titulaire d'un compte titre ordinaire, le compte titre il n'est pas clôturé, et les titres ils vont aux enfants, aux héritiers, en fait, au sens du code civil, et les plus-values sous-jacentes ne sont pas taxer, en fait, puisqu'il n'y a pas de cession, il y a transmission et pas cession, et donc, sur le plan fiscal, ça gomme les plus-values et cela peut être excessivement intéressant. Mmh. En fait, vous l'avez bien compris. Alors, oui, vous avez entièrement raison, il faut s'intéresser à la fiscalité de ces actions, de ces obligations, bien sûr, pour l'optimiser. Et on peut l'optimiser. Mmh. Si vous vous intéressez à cette matière, vous paierez beaucoup moins d'impôts sur vos gains boursiers que celui ou celle qui ne s'y intéresse pas.
Et on le redit, voilà. C'est pas ça le cœur de la stratégie, c'est le cadeau bonus.
Alors, c'est le cadeau bonus, oui, c'est pas le cœur de la stratégie, mais ça peut quand même être très important. Donc, oui. Il faut, la fiscalité, oui, si on n'y prend pas garde, c'est autour d'un tiers des gains qui sont prélevés par les organismes sociaux et par l'administration fiscale. Donc, c'est quand même très significatif, d'où l'intérêt quand même d'essayer d'optimiser sa fiscalité. En fin de compte, pour répondre à votre question, à l'origine, c'était assurance vie ou CTO, ouais. Il faut les deux. Et en fait, en pratique, il faut les deux. Vous avez un bon contrat d'assurance vie parce que ça vous permet d'investir en obligations tout en profitant d'une garantie sur le capital. C'est exceptionnel. Faut pas hésiter. Au revenu, on est très clair. On conseille à nos lecteurs, à nos abonnés, d'investir en obligations via un contrat d'assurance vie pour profiter d'une garantie sur le capital. Si vous le faites via un fonds d'investissement classique sur un compte titre ordinaire, en cas de hausse des taux, et vous avez vu que c'est des actualités, qui dit hausse des taux dit baisse de la valeur des obligations, et donc vous avez un actif qui perd de la valeur. Donc oui, bien sûr, l'assurance vie pour le fonds en euros, oui, l'assurance vie pour la fiscalité successorale, puisque vous savez, il y a des avantages en matière de succession, les versements avant 70 ans sont exonérés d'impôts à hauteur de 152 500 euros par bénéficiaire. Donc ça, il ne faut pas hésiter à en profiter. Maintenant, c'est vrai que dans l'assurance vie, il y a quand même des frais. Donc c'est un point clé.
Oui. Hein,
il faut regarder ça de près. Vous avez d'un côté la capitalisation des intérêts et l'enveloppe de capitalisation qui est fait l'effet. Vous profitez d'un effet boule de neige, mais de l'autre, vous payez des frais. Sur le compte titre ordinaire, il y a moins de frais, mais par contre, vous passez par la case impôt à chaque fois que vous encaissez un gain, mais vous avez une grande liberté, plus l'effet gommage des plus-values. Donc, je pense vraiment que c'est deux enveloppes fiscales complémentaires. Si vous cherchez la sécurité, l'assurance vie en euros. Si vous êtes très dynamique sur des titres en direct, sans doute plutôt le PEA, mais via des fonds d'investissement ou des ETF au sein de l'assurance vie pour profiter de la capitalisation de vos gains. Et puis, sinon, vous pouvez bien sûr, en complément, détenir un compte titre ordinaire. C'est moins chargé en frais. Et puis, vous profitez d'une totale liberté.
Ben voilà, à l'heure du choix, ne choisissez pas. Prenez les deux. C'est pas mal aussi. Christian Fontaine du magazine Le Revenu, merci infiniment. Et bon été à vous. On se retrouve évidemment à la rentrée. Tout de suite, le placement à suivre.
Tout pour investir. Le placement à suivre.
Arnaud Gian, BlackRock, bonjour.
Bonjour Antoine.
Alors avec vous, comme régulièrement, on fait un point sur les ETF, sur la gestion passive et toutes sortes d'instruments. Mais là, aujourd'hui, vous arrivez avec un baromètre. Édité par BlackRock et OpinionWay sur l'état d'esprit des investisseurs. Et on le disait, les ETF ont démocratisé l'investissement boursier, en gros, depuis le Covid. Mais c'est une vague qui ne se termine pas. C'est-à-dire que c'est en progrès absolument constant. C'est un des principaux enseignements de ce baromètre.
Oui, alors on a réalisé ce baromètre parce qu'on fête nos 20 ans à Paris, BlackRock. et on cherchait à faire plus ou moins le bilan, à regarder ce qui a été fait, le chemin parcouru et un petit peu ce qui reste à faire. Donc on a conduit cette étude avec un peu plus de 2000 sondés. Mmh. Le premier constat, donc plutôt satisfaisant, c'est que pour la majorité, plus de 60%, l'investissement est plus accessible aujourd'hui qu'il y a 20 ans.
Voilà.
Là, si c'était pas le cas, ça aurait été plus compliqué pour nous. Donc, on est sur le bon chemin. Alors, quand on regarde les raisons évoquées pour cela, beaucoup en fait nous parlent de la simplification de l'accès, notamment au travers d'outils digitaux. Donc, en fait, il y a un travail qui a été fait en amont de la chaîne, aussi donc sur la partie offre, on va dire, aussi bien en termes de produits. Donc là, vous le mentionnez, les ETF, c'est essentiellement un produit qui a pu démocratiser l'accès à l'investissement sur le global. Et ça fait 30 ans que ça existe, mais ça fait 5 ans qu'on voit un engouement plus fort. Et aussi, en fait, le parcours simplifié, grâce notamment aux néo-courtiers qui sont venus essayer de pouvoir donner un accès beaucoup plus facile. On parle aussi dans l'accessibilité des montants minimum d'investissement. Et là-dessus, sur les ETF, on parle de mise de départ de 5 euros. Donc, on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement accessible.
Alors, ce qui est assez curieux et peut-être même contre-intuitif, c'est que, bon, je simplifie à gros traits, mais en gros, on s'était mis à boursicoter pendant le Covid et à la sortie du Covid, voilà, pour mettre du beurre dans les épinards. Oh, c'est pas mal la bourse, disons, en fait. Là, on a l'impression que ça a changé d'objet. C'est-à-dire que la bourse, enfin, les ETF et ce genre de produits financiers sont là pour alimenter des choses qui étaient jadis alimentées par des placements de long terme, par des livrets, par le livret A, par exemple. Là, on se rend compte qu'il y a des implications beaucoup plus concrètes de ce genre de produits.
Non, tout à fait. En fait, je pense que le changement le plus fondamental, il s'est fait grâce à vous. Sur l'éducation financière, parce que en fait,
on lutte tous les jours.
On lutte, on lutte beaucoup, mais en fait, c'est rentré dans les esprits. C'est-à-dire que la majorité des sondés, ils sont 80% à dire que c'est essentiel pour se créer une situation financière solide d'avoir recours à l'investissement et l'investissement de long terme.
Ouais.
Donc ça, c'est extrêmement satisfaisant. Donc il y a vraiment cette notion de passage de l'épargne, comme vous le disiez, vers cette notion de constitution de patrimoine investissement à long terme. Et d'ailleurs, c'est assez, assez intéressant. Et donc, c'est toujours très dur de pouvoir avoir, de matérialiser des ordres de grandeur. Et donc, on leur a demandé justement s'ils avaient investi il y a 20 ans.
Ouais.
C'est vraiment le bilan qu'on faisait.
Ouais, ouais.
Avec 100 euros dans les marchés de capitaux, type CAC 40, où est-ce qu'ils en seraient aujourd'hui? Et en fait, pour 40%, ils ont largement surestimé, ou en tout cas, ils comprennent qu'il y a un intérêt financier très fort, qui est vraiment la théorie financière de savoir que le risque est rémunéré. Donc, ils sont conscients des risques associés. Donc, certains ont une tolérance plus faible. Par contre, pour 40%, ils pensent que ces 100 euros se transforment en 1000 euros au bout de 20 ans. Ce qui est beaucoup.
Oui.
C'est probablement deux fois plus que la réalité.
Oui.
Mais il y a vraiment cette notion de, oui, il y a un intérêt pour faire croître mon patrimoine, de pouvoir investir dans les marchés de capitaux. Il y a une deuxième notion qui est assez intéressante, c'est que pour 80% d'entre eux, en fait, il y a cette volonté d'investir pour un but de vie.
C'est ça que je voulais dire.
Vous parliez du boursicotage.
Ouais.
C'est vrai sur les actions, c'est vrai aussi sur des fonds.
Ouais.
Il y a 20 ans, en général, on investissait pour faire de l'argent, pour gagner de l'argent rapidement.
C'est ça.
Pour miser sur quelque chose. Et ensuite, on retirait.
On achetait des biotech, on achetait du dot-com.
On rentre et on retire. Là, c'est plus du tout le concept. Les raisons de l'investissement aujourd'hui, c'est pour constituer un projet de vie qui soit adapté à mon profil, qui soit adapté à ma durée de détention. Ça peut être pour un projet immobilier, un projet d'études, projet retraite, qui est pour une majorité
d'entre eux.
C'est dans ces optiques de retraite. Plus de 50% investissent pour le compte de leur retraite.
Et puis, il y a un truc qui est peut-être enfin rentré dans les cerveaux, c'est que le risque est votre ami sur le long terme. Et ça, c'est sans doute le reflet des chiffres qu'on voit dans cette étude.
Exactement. Après, il y a besoin aussi d'une pédagogie encore. Il reste encore quelque chose à faire, puisque pour 75% d'entre eux, donc c'est quand même les trois quarts, ils ne sont pas prêts à perdre de l'argent Et donc, du coup, la notion de prise de risque, même si elle est rémunérée et compensée sur le long terme, elle est toujours difficile à intégrer. Donc, il y a peut-être un peu de pédagogie pour relever, retirer ces craintes. Et le deuxième, c'est que il y a une surévaluation pour la majorité, encore une fois, 80% du montant minimum requis pour commencer à investir.
Du ticket d'entrée, en fait.
Exactement.
On se dit, il faut être riche pour investir en bourse.
La barrière psychologique moyenne indiquée par ce sondage, elle est de 8 000 euros. Or, je l'évoquais en introduction, à partir de 5 euros, on peut commencer à être investisseur, notamment en ETF. Donc, ce n'est pas encore généralisé dans les mœurs, il y a encore un peu de pédagogie à faire.
On se dit, c'est encore que c'est un truc de riche.
C'est encore un petit peu un truc de riche.
D'accord.
Le dernier enseignement, je trouve intéressant, c'est sur la frontière. Donc, où est-ce qu'on en est et comment est-ce qu'on se projette? Quels sont encore les chemins, le chemin restant? Et en fait, ils sont aujourd'hui 30% des sondés estiment que les outils digitaux d'intelligence artificielle sont déjà conçus pour les aider à construire un portefeuille optimisé.
Ouais, ça, on le voit.
En fait, ils peuvent déjà faire le diagnostic et le chemin de réflexion sur une allocation grâce à ces outils. Ça, c'est 30% d'entre eux. Mais les 70% restants se disent que dans les 5 ans, on y sera. C'est-à-dire que ceux qui pensent que les outils ne sont pas encore totalement complets pour intégrer tous les paramètres, pensent que dans 5 ans, on y sera.
Oui, et puis 5 ans, c'est après-demain, de toute manière.
C'est après-demain.
Ouais. Avec énormément de progrès en très peu de temps. Et puis, on le voit aussi, c'est quelque chose qui intéresse de plus en plus les jeunes, ceux qui commencent à peine à se créer un patrimoine. On a pu le voir lors de l'Actionnaire Day, que vous pouvez réécouter d'ailleurs en podcast, en replay. C'était un moment magique. On va essayer de renouveler ça l'année prochaine. C'est très riche d'enseignements. L'ETF, c'est la porte d'entrée alors, à la constitution d'un patrimoine, mais aussi, ça peut susciter des vocations qui vont avoir cours sur un panorama beaucoup plus large, quoi, finalement.
Vous avez raison. Alors déjà, sur l'investissement et les jeunes, ça, c'est aussi une énorme satisfaction. Ouais. On peut se dire, peut-être qu'on a fait le boulot et que ça a presque sauté une génération.
Le leapfrog, quoi.
Parce qu'en fait, c'est les moins de 35 ans, c'est ceux qui du coup, sont les plus nombreux à être néo-investisseurs, notamment en ETF. Ils ont différents multiples canaux pour justement être éduqués financièrement. Vous en faites partie. Et donc, en très grande partie et en majorité, ils investissent. Et deux, en fait, ils nous indiquent qu'ils vont continuer à augmenter leur part d'investissement.
Ouais.
Et encore une fois, pour la grande, pour en tout cas la moitié ou plus, c'est dans des objectifs de long terme de constitution de retraite. Et donc,
et là aussi, ils ont compris.
Pour pas mal d'années, puisque s'ils démarrent moins de 35 ans, ils restent encore un petit peu à se constituer.
Arnaud Girand de BlackRock, merci infiniment, parce qu'elle était très, très intéressante, cette étude. Donc, Opinion Way pour les 20 ans de BlackRock. C'est quand exactement la date ? En France ?
On s'est déjà passé, mais c'était le premier trimestre.
Le premier trimestre. Ah. J'allais vous dire, venez avec Larry Fink la prochaine fois.
Et ben,
on essaiera de l'avoir.
Pour les 25.
Ah ben, avec grand plaisir. Il sera le bienvenu. Arnaud Girand de BlackRock, merci infiniment. Et on va terminer l'émission avec le coffre-fort. On va parler d'art, bien sûr. À tout de suite.
Tout pour investir, le coffre-fort.
Et comme régulièrement, justement, on explore un petit peu les dynamiques qui animent le marché de l'art. Victoria D'Amido d'Agut, bonjour.
Bonjour Antoine.
Merci d'être avec nous. On va explorer différentes problématiques du marché de l'art. Premièrement, il y a quelque chose qui est toujours intéressant sur ce marché de l'art, et spécifiquement quand on est collectionneur, quand on essaie de s'intéresser à plusieurs courants artistiques, c'est d'essayer de voir un petit peu comment se passe l'émulation entre les maisons d'enchères d'un côté, mais aussi les grandes institutions, les ministères qui promeuvent un certain nombre de dynamiques artistiques. Et dans cette émulation, il y a des mécanismes qui aident les œuvres à devenir beaucoup plus disponibles sur le marché de l'art. Et je crois que vous avez quelques exemples à nous proposer qui sont intéressants là-dessus.
Oui, tout à fait. On a l'exemple avec, par exemple, les œuvres caravagesques, où l'on sent exactement, où on sent un vrai intérêt de la part des amateurs d'art. avec des expositions qui ont eu de grands succès. Par exemple, au Petit Palais, il y a eu Ribera, au musée Jacques Marandré, voilà, il y a eu Georges de la Tour. Et ça se vérifie aussi dans l'engouement de nos collectionneurs pour les œuvres que nous présentons. Mmh. Et la semaine dernière, on avait un très joli tableau de Mathias Thom, qui est donc un caravagesque du XVIIe siècle, qui présentait toutes les caractéristiques d'une œuvre caravagesque, à savoir ce clair-obscur très intense,
ce cadre. Jeu de lumière.
C'est exactement ça, les cadrages resserrés, un personnage qui, effectivement, occupe tout l'espace pictural. Ouais. Et on l'avait estimé 10 à 15 000 euros, et ce tableau s'est envolé pour 54 000 euros. Donc, il y a une vraie. Il y a un vrai intérêt de la part de nos clients pour ce type d'œuvre.
Ah oui, c'est assez incroyable. Pourquoi est-ce que le nom de Caravage, on connaît, mais comment se fait-il que ce mouvement qui est parti de lui, justement, des spécificités qu'il a sur ses tableaux et un peu ses petites obsessions en tant qu'artiste, comment ça se fait que c'est devenu si au cœur de la création de valeur dans le marché de l'art?
Alors peut-être pour l'engouement autour de la personne de Caravage lui-même, à savoir qu'il était un être assez curieux, qui a eu une vie très rocambolesque, qui est mort dans des circonstances tout à fait mystérieuses. Mmh. Et en même temps, il a eu cette aura, cette influence sur des artistes dans l'Europe entière, avec des courants qui se sont créés même en France, qui se sont créés également dans les pays du Nord, en Flandre, aux Pays-Bas. Donc c'est ce qui explique aussi cette émulation actuelle autour de cette personne et de ses émules.
Alors émulation, je le disais en début d'interview, entre les institutions en elles-mêmes et aussi les acteurs du marché de l'art, il y a aussi une forme d'émulation, c'est-à-dire que l'histoire de l'art vient piocher et vient s'enrichir de ce qui se passe dans les maisons de vente et justement sur le marché, sur l'échange d'œuvres, etc. On redécouvre des choses, on redécouvre des mouvements, et ça, c'est une problématique qui vous intéresse aussi.
Bien sûr, c'est une problématique qui nous intéresse parce que on a toujours à cœur, quand on nous confie une œuvre, d'arriver à la valoriser, d'arriver à la replacer dans un contexte de production, dans un contexte historique. Et parfois, ça peut susciter de l'intérêt de la part des institutions, des musées, que ce soit français ou à l'étranger. Et quelque part, nous les aidons à enrichir leur collection, et c'est ce qui est très intéressant.
Oui, effectivement. Et puis, il y a aussi des découvertes qui sont faites par les particuliers eux-mêmes. Alors, c'est rare. Mais alors, le jour où ça arrive, je suppose que des histoires comme ça, vous en avez à l'appel chez Agut.
Oui, c'est assez formidable. Récemment, on nous avait confié un pastel qui avait été un petit peu remisé dans un garage, dans un grenier, qui nous a été confié comme anonyme. Et finalement, avec notre travail d'expertise, nous avons réussi à le restituer à un artiste qui s'appelle Charles-Antoine Coipel, ce qui nous a permis de lui donner une vraie valeur, à savoir 15-20 000 euros, avec une adjudication à 24 000 euros. Et puis aussi, par exemple, il y a quelques mois, j'étais venue parler d'un dessin qui est juste derrière vous, de Jean-Baptiste Oudry, qui était arrivé comme plus ou moins une gravure, donc avec une valeur assez faible. Et finalement, c'était bien un dessin, il était bien préparatoire à un tableau au musée des Augustins à Toulouse.
On avait parlé des dessins préparatoires, c'est fascinant.
Exactement, ouais. Et finalement, on l'avait estimé donc 60 à 80 000 euros, et il s'est vendu près de 212 000 euros. Donc il y a un vrai intérêt à venir nous voir pour notre travail d'expertise, notre travail de recherche et de valorisation des œuvres.
Je suis quand même très impressionné par les montants, parce que là, ça passe de, oui, effectivement, belle prise de valeur, là ça s'envole. On parlait du secteur des semi-conducteurs en début d'émission, là aussi c'est un marché où la valeur se crée par cycle, et c'est assez étonnant. Dernière chose, l'importance de la signature, évidemment. Ça reste un aspect prépondérant dans les dynamiques dont on vient de parler.
Alors oui, la signature compte, mais à savoir que lorsque l'on parle de signature, dans notre métier, on n'entend pas forcément le fait que le peintre ait inscrit son nom. Mmh. Une signature peut aussi être confirmée par les caractéristiques techniques d'une œuvre. Et c'est effectivement très important, puisque certains artistes ont une cote beaucoup plus importante que d'autres. Et c'est ce qui s'est passé pour Jean-Baptiste Oudry, c'est ce qui s'est passé pour Charles-Antoine Coipel, où parce qu'il y a leur nom derrière, qui n'est pas forcément inscrit sur l'œuvre, on arrive à des résultats assez fabuleux.
Et puis là aussi, redécouvrir des noms ou même les découvrir tout court. Je sais pas, Jean-Antoine Coypel, moi je dois vous confier que je connaissais pas.
Oui.
Mais c'est véritablement un mouvement dans le mouvement, quoi.
Oui.
Et c'est ça qui est intéressant.
Oui, tout à fait. Et nous avons en fait des amateurs, des collectionneurs, des amateurs éclairés, on va dire, et oui, des collectionneurs qui connaissent ces artistes, qui savent exactement ce qu'ils ont pu faire dans leur carrière et qui sont vraiment intéressés par le fait d'acquérir des œuvres comme ça et finalement d'acquérir un petit bout d'histoire, un petit bout d'histoire de l'art. Et voilà, c'est comme ça aussi que la dynamique peut fonctionner.
L'histoire de l'art qui s'enrichit de ce qui se passe autour du marché de l'art. Merci infiniment, Victoria
Damido-Dagut,
de nous avoir expliqué tout ça. C'était encore une fois passionnant. TPI, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous demain pour une nouvelle édition. D'ici là, je vous confie à Marie Cœur de Roy pour les experts de l'IMO et je vous retrouve à 15h30. Du côté de Guillaume Sommerer, ce sera BFM Bourse. À tout à l'heure.
Tout pour investir sur BFM Business.